Alors bonsoir docteur Éric Pierre. On vient de terminer le spectacle de Michel Pambara qui était précédé d'une table ronde sur le thème de la résilience. Donc en parlant d'Haïti et de ce qui s'est passé du génocide au Rwanda. Donc vous avez parlé d'Haïti. J'ai beaucoup aimé la partie où donc vous avez expliqué cette solidarité qui venait vraiment de la base. Donc vous avez parlé de grassroots, de l'aide grassroots. Mais vous avez aussi souligné le fait que les idées pour reconstruire Haïti et les initiatives viennent de l'intérieur et soient prises en charge par les Haïtiens eux-mêmes.
Oui, de toute évidence, les Haïtiens ils sont conscients des besoins du pays. Et puis ils ont le cœur pour le pays. Ils ont l'intelligence pour le pays, ils ont évolué dans le milieu, ils connaissent le réel haïtien. Donc je pense qu'on ne peut pas compter sur quelqu'un qui vient avec un système de valeurs tout à fait différent, qui vient avec des notions qui ont réussi quelque part d'autre, essaie de les appliquer. Ça, c'est un aspect. Et aussi, il y a l'aspect naturellement, l'aspect économique. On a gaspillé énormément d'argent dans les consultations. C'est de l'argent qui aurait pu être utilisé pour servir les Haïtiens de la base, les Haïtiens qui ont vraiment besoin de ces sommes-là.
Vous avez parlé aussi de ceux que vous appelez les professionnels du désastre, donc des gens corrompus qui ont détourné une partie des fonds levés. Alors aujourd'hui, au niveau de la corruption, où est-ce qu'on en est? Est-ce que la situation s'est un peu améliorée?
Je ne veux pas viser principalement les Haïtiens. Parce que les Haïtiens corrompus, ce sont des complices. Et peut-être des complices des gens de la communauté internationale qui, en fait, gagnent le gros des sommes. Donc, les Haïtiens, ils ne font que collecter les miettes. Les Haïtiens les plus corrompus. La vraie corruption, en fait, il faut la trouver au niveau international. On a donné des cas où des gens ont reçu des sommes énormes. Ils vont au pays, ils ne laissent même pas leur SUV et ils collectent des millions et des millions de dollars. Et c'est comme ça que l'argent essentiellement s'est évanoui. Une grande partie des sommes s'est évanouie et on ne saura jamais où est passé cet argent-là.
Je trouvais que votre intervention était vraiment très intéressante et vous avez insisté sur le fait que le bilan aujourd'hui est mitigé. Mais sur le plan positif, qu'est-ce que vous diriez? Quelles sont les initiatives qui tirent le pays vers le haut aujourd'hui, après la catastrophe?
Bon, il y a eu beaucoup d'initiatives louables. J'ai parlé par exemple au rêve de voir de nouvelles infrastructures. On est en train, clopin-clopin, de rebâtir, de créer de nouvelles infrastructures, mais ça va prendre des sommes énormes. On a découvert une mine d'or récemment qu'on essaie d'exploiter. On parle de l'exploitation des minéraux en Haïti. Il faut voir comment les gens ont rebondi, les artistes, les artisans d'Haïti. Comment ils ont rebâti leur vie, comment ils essaient de produire encore des œuvres. Il faut voir les marchés d'art en Haïti. En fait, c'est sur les rues qu'on voit ça. C'est comme des galeries à ciel ouvert pour voir les productions artistiques. Le pays continue à produire de la littérature. Les gens, ils essaient de survivre. Ils essaient de survivre dans l'économie informelle parce qu'ils n'ont pas d'emploi, mais ils essaient de survivre tant bien que mal. Il y a aussi ce qu'on n'arrive pas à quantifier, c'est l'entraide entre les Haïtiens. Et les économistes ne savent pas. On dit que Haïti, c'est un pays pauvre, mais pourtant, on voit des gens qui arrivent à prendre soin d'eux-mêmes ou bien à trouver un cousin, un voisin, un ami qui va les aider. Dans notre contexte ici, en Amérique du Nord, eh bien, on a le gouvernement qui s'occupe de tout ça. Donc, on peut quantifier ce genre d'assistance. Mais l'assistance interpersonnelle, on ne peut pas la quantifier.
Il y a des données humaines qui échappent à ce genre d'études.
Absolument, qui échappent à toute recherche.
Est-ce que vous pensez que l'humour, c'est une partie importante de la résilience de ce processus-là?
L'humour, le besoin de rire, la production du rire, fait partie essentiellement de la culture haïtienne. Et ce sont des aspects que nous sommes en train de perdre. Nous sommes en train de perdre nos contes qui sont remplacés par, il faudra tout expliquer là, les contes, c'est ce qu'on faisait il y a de cela 50 ans, on racontait des histoires les soirs et ça fait partie de notre folklore, tu vois. Maintenant c'est la télévision qui remplace ce contact interpersonnel entre les gens, ces histoires qu'on transmettait de génération en génération, et bien on est en train de les perdre. Je pense que l'humour a un rôle essentiel en tant que thérapie et aussi en tant qu'opportunité pour les gens de communiquer entre eux et de se détendre, de mener une vie sociale. Et ça, dans une atmosphère informelle. Tu vois, ici, on a besoin d'une salle de théâtre. En Haïti, eh bien, c'est un groupe de jeunes, un groupe d'adultes, je parle de mon temps là, du bon vieux temps, qui pouvaient se réunir et raconter des histoires et créer cette interaction. Et je pense que cette culture là, on en parle, mais c'est une culture qu'on est en train de perdre avec la technologie, avec la télévision, avec les téléphones cellulaires qui sont endémiques un peu partout en Haïti. Donc on est en train de perdre ça, sans ces préjugés-là.
Mais merci beaucoup, Eric Pierre.
Merci
pour vos questions.
Au revoir.
Nous sommes désormais avec Michel Pambara. Alors, est-ce que j'ai bien prononcé?
Oh, mais ça dépend qui le dit. Pambara, c'est une longue histoire.
Alors, j'ai beaucoup aimé votre spectacle déjà, c'était vraiment très bien. J'ai beaucoup rigolé. Mais je me posais la question, première fois que vous avez rodé un spectacle comme ça, vous abordez quand même des thèmes assez graves. Est-ce que vous n'avez pas eu peur des réactions? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça n'a pas marché?
C'était au Québec, justement, c'est David et Goliath. On n'avait pas beaucoup de noix et ça les choquait tellement que ça les faisait rire. Je me souviens tellement, j'étais à l'Université Laval. On faisait un concours d'humour, vous devez connaître Anthony Cavanagh. Hein?
Oui.
Anthony Cavanagh, vraiment, j'ai commencé avant moi, je faisais la première partie d'Anthony Cavanagh, je me souviens, en 96. Et je fais un humour que les gens appréciaient, c'était « Il y a trop de blancs au Québec ». Même j'arrivais sur scène, trop blanc, je descends S, je parlais de la neige. J'arrivais sur scène, je dis, moi, je trouve qu'il y a trop de blancs, même ma copine est blanche. Et je fais, ils ont apprécié, je parlais de trucs de vision mondiale, et je me suis retrouvé juste pour rire en 96. Et des fois, j'avoue, j'ai fait dans les bars, à un moment donné, je dis, il y a trop de blancs, t'as un problème, Caroline? Et là, je faisais, oh, mais quelqu'un qui est raciste comme moi. Et souvent, quand tu as une équipe après de Québécois qui apprécient, même qui te poussent, des fois, je n'osais pas. Puis même, il y a un gars que j'ai dit, j'ai appris votre histoire et pas que vos ancêtres, des prostituées, des débiles légers et des bandits. Et avant, j'ai dit, j'espère que vous avez changé. Et je travaille avec un Québécois qui est respecté en humour. Il m'a dit, non, tu n'as pas dit j'espère. Il dit, vous n'avez pas beaucoup changé. Je dis, je ne peux pas dire ça, il va me tuer dans un bar. Et là, je l'ai fait avec beaucoup de peur. J'ai appris votre histoire et pas que vos ancêtres Québécois étaient des bandits, des prostituées, des débiles légers. Mais il n'y a pas beaucoup changé. C'est vrai, ça. Chut, quel monde dans lequel je suis. J'ai adoré. En fait, quand il sait que c'est l'humour, hein, c'est acceptable.
Et c'est aussi important de travailler en impro avec la salle pour...
Oui, c'est ça. On croit que c'est bon de roder. Il y a des blagues. Ah, ça ne rentre pas plus. Mais c'est bon. Et même aujourd'hui, quand les gens faisaient « Oh, mais je savais que c'est une façon « Oh » qui veut dire autre chose. » Et même le gag que j'apprécie, c'est une sensibilité. Mon frère, quand il demande comment tu as trouvé la neige, c'est comme faire un une canadienne. Au début, c'est beau, c'est nouveau. Mais après, tu t'habitues. À la fin, ça finit. Je sais que les filles font « Oh, mais ça, c'est mon frère. Moi, j'aime encore la neige. » C'est des trucs comme ça. Mais le théâtre m'avait beaucoup, c'est ce truc de provocation, mais en sachant de quoi. Brecht, c'est pas comme de Brecht, la distanciation.
Du coup, comment vous avez commencé? Alors, c'était quand vos débuts sur scène? Vous avez pris des cours de théâtre?
Très bonne question. Et au départ, moi, j'étais en sciences, et il est vrai que quand je suis de Rwanda, ça a été un choc. De voir si j'avais été au Rwanda, on m'aurait tué. Et là, j'ai décidé d'aller faire ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai toujours rêvé de faire. j'ai fait des auditions pour recevoir un théâtre et conservatoire de Québec et seulement, puis j'ai été accepté au premier tour. Donc, il y a à peu près une centaine de personnes qui m'ont accepté. Là, ça m'a donné la chance de jouer. Mais mes idoles étaient comme Eddie Murphy. Et là, je jouais, je faisais rire les gens. Puis le prof, il dit, tu ne respectes pas le quatrième mur. Mais c'est quoi sur le quatrième mur? Là, j'ai été au théâtre, comprends. D'ailleurs, j'aime bien dire que les humoristes, on brise le quatrième mur. Et j'ai été au théâtre. Et le projet, le premier monologue que j'ai fait, c'était un peu en cours de théâtre. Théâtre de la provocation. Mais en même temps, j'avais un petit goût. Et j'ai fait une pièce de Hosanna de Michel Tremblay en travesti. Le prof me dit, ouh, c'était bon. Mais les pièces de Michel Tremblay, c'est les Tremblay que je sais faire pour les Québécois. Si tu veux vraiment jouer, il faudrait te créer ton propre histoire. Et ça, je sais que c'est très fermé au Québec. Et je le dis sans honte de dire, si tu ne fais pas partie de la gang, moi, je rêve de faire du théâtre, mais je ne fais pas partie de la famille de théâtre. Alors, il faut inventer ta propre histoire. J'ai vu aussi que les Noirs américains, pour voir, il fallait qu'ils inventent leur propre histoire et tu fais ta place, mais tout en utilisant... Et ce n'est pas évident. Ça prend Yves Meoloko, je ne sais pas si vous le connaissez, il anime la radio. On était des colocs à Montréal. Il me voyait travailler. Il dit, eh, l'humour, c'est sérieux, hein? C'est pas des blagues. Des heures à changer, tu vois. C'est dans un bar, c'est mauvais, tu recommences. Et quand les gens rient, c'est... Aujourd'hui, j'ai apprécié. Les gens étaient dédains, ils comprenaient toutes les subtilités.
Les spectacles ici sont beaucoup plus physiques. Il y a beaucoup plus de jeux où on bouge que peut-être les comiques français. Et c'est ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans votre spectacle, c'est que vous bougez partout, vous dansez. Et est-ce que c'est pas épuisant de...
C'est très épuisant, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'humoristes. Si vous trouvez ton art, tu essaies, tu utilises. Qu'est-ce que tu as comme je sais que la danse, je l'ai. Si je pouvais chanter, et je suis le pire chanteur, et j'en suis fier. Vraiment, je chante tellement mal. Hein. Même je pensais que les gens de ma communauté, on ne chante pas tellement. C'est un art, ma façon de mal chanter. Mais et au début, pourtant, je voulais chanter. D'ailleurs, même en Afrique, je faisais partie d'une chorale, on m'a mis à la porte. Hein. Papa, elle m'aimait bien, mais ça la gêne. Au début, il me dit, soit le début, non, ta voix ne correspond pas. Et là, si je pouvais utiliser ça, je l'utiliserais. Mais j'utilise ce que j'ai, qui est le mouvement. Mais en même temps, je trouve qu'il me manque si je pouvais chanter pour pouvoir être comme un que Robin Williams fait décéder, que je respectais beaucoup, qui était un artiste complet.
Alors, est-ce que vous connaissiez les intervenants de ce soir de la table ronde, Chantal et Eric Pierre ce soir?
Pas du tout, mais je connais l'histoire, ça m'a touché et j'ai lu et ça m'a, les histoires des gens qui racontaient. Il y avait une madame qui m'a marqué, je sais pas, de Yolande Mukagasana. Si tu lis son histoire, et ce qui m'a touché, la particularité, il dit l'arbre généalogique de son mari est coupé. Parce que son mari était orphelin, ils ont fait 4 enfants qui ont été tués. C'est elle qui racontait. Mes enfants et mon mari ont été tués. Pour mon mari, son arbre généalogique est fini. Ça, c'est vraiment, ça montre quelque chose. Il essaie de fonder une famille, on l'écrase. Et j'ai suivi son cheminement. C'est très dur. Et le cheminement qu'elle vit, c'est la même avec les viols, tout ça. C'est un moment. Et j'ai la chance, touche du bois, je n'ai pas vécu, mais ça te marque.
Ce soir, c'était une très belle soirée avec de la musique. Une belle discussion.
Étonnamment, la première chose que j'ai demandé à ma copine qui est polonaise, j'ai dit, t'as vu les Français qui sont là, le Sébastien, tout ça, ils ont apprécié, parce que je sais qu'ils regardent, si ça les ennuie, ça les ennuie, pour qu'ils se prennent.
D'accord, merci beaucoup, ça m'a donné très envie de voir le nouveau spectacle.